I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans le quatrième épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons, mais surtout les histoires. Je vous invite à vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite et à vous laisser emporter par l'histoire que vous allez entendre. Ils se sont réveillés à la morgue ou d'un coma, ont été déclarés morts par la médecine ou ont vécu un choc violent. Revenus de l'autre rive, ils témoignent de cette expérience indéfinissable tant elle a changé leur vie, quelle que soit leur nationalité, leur religion ou leur philosophie. L'expérience de mort imminente, EMI, ou Near Death Experience en anglais, présente des sensations ou visions survenues chez un individu dans un état de mort clinique ou un coma très profond. En d'autres termes, alors que le cerveau ne fonctionne plus du tout au moment de l'EMI, les patients ont tout de même vu ou ressenti des choses. Ils témoignent de souvenirs, de lumières, de tunnels lumineux, de rencontres avec des êtres spirituels ou familiers. Un sujet fascinant et souvent mis à mal. Pourtant, on estime que 4% de la population mondiale a déjà vécu cette expérience, soit 480 millions de personnes. Des récits qui se rejoignent quasiment toujours, de gens qui ne se connaissent absolument pas. Ce phénomène est encore inexpliqué, mais plusieurs thèses sont avancées. Donc la question se pose, la conscience peut-elle être dissociée du cerveau? Comment gère-t-on le retour brutal dans son corps? Comment vit-on en ayant ces nouvelles informations? Dans cet épisode, il n'est pas question de débunker une théorie ou une autre, mais d'écouter avec attention l'histoire incroyable d'Isabelle, dont la vie a basculé un matin de mars.
What would you do differently if you knew for sure that you were going to be immortal when you died somehow?
That I saw a light at the end of the tunnel.
The near-death experience is something that really needs to be studied.
I was dead.
And the most painful and negative experience in our perception might actually be the most positive learning possible in one's life and afterlife.
Aujourd'hui, je suis avec Isabelle, qu'on peut appeler Isa. Isa, est-ce que tu autorises tout le monde à t'appeler Isa?
Ah oui.
Oui. Aujourd'hui, on a décidé de tamiser les lumières et d'allumer des petites bougies, puisqu'on va parler d'un sujet un petit peu mystique qui m'intéresse beaucoup. Et Isabelle est la personne la mieux placée dans mon entourage pour en parler. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter ?
Je m'appelle Isabelle, je suis infirmière libérale. J'habite dans une petite ville dans le sud de la France, à côté d'Arles, et je travaille dans un petit village qui s'appelle Fontvieille.
Avec l'accent du sud.
Oh non, pas ça. Je suis mariée avec Jean-Marie et j'ai deux enfants, Salomé qui a 17 ans et Roméo qui en a 14.
Et ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec Jean-Marie ?
Ça fait 20 ans cette année et ça fait 30 ans qu'on est en couple.
Waouh, vous êtes connue super jeune, parce qu'on dirait pas comme ça. Mais elle dit qu'elle est vieille, mais elle est très jeune. Et tu n'as pas dit ton âge ?
Non, je vais avoir 47 ans.
Et elle en fait... 14.
Oui, dans ma tête, c'est un peu ça.
Aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu particulier et j'avais très envie d'en parler avec toi parce que tu es la personne de mon entourage avec qui j'ai pu en parler aussi pour la première fois. Est-ce qu'on peut revenir sur une des journées qui a changé ta vie un peu pour toujours ?
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut revenir à ce jour-là et que tu puisses nous raconter ?
Donc c'est le 5 mars 2015, je pars travailler le matin. Donc c'est vrai que ça fait une semaine que je ne suis pas très bien. J'ai un petit peu des angoisses et je ne sais pas pourquoi.
T'as aucune
raison particulière, tout va bien, je rentre de vacances et je reprends le travail. Je monte dans ma voiture ce matin-là, je fais quelque chose que je ne fais pas d'habitude, c'est-à-dire que je vais dans mon coffre et je prends ma petite mallette pour faire mes bilans sanguins, alors que je n'en avais pas.
D'accord.
Ce jour-là, et je la dépose à côté de moi, donc je pars quelques minutes après l'heure habituelle.
D'habitude, t'es plutôt.
D'habitude,
plutôt ponctuel, mais là.
Extrêmement ponctuel. Là, je pars quelques minutes après. Et donc, je mets la radio. Et à la radio, c'était pas foufou, ce qu'il y avait. Donc, je mets ma clé USB. Et sur le chemin, j'écoute Led Zeppelin. Stairway to Heaven.
Ok, bon choix musicaux.
Et donc, il fait nuit. Il a beaucoup plu les jours d'avant. Il y a du vent, mais on a l'habitude du vent. Donc
oui, dans le sud, vous êtes habitué.
Et donc, je suis sur la route. Je vois une voiture qui me suit, un gros pick-up blanc. Et là, 5 minutes après être partie de chez moi, en fait, au détour d'un virage, il y a un arbre en travers de la route et je rentre dans l'arbre. Là, tout bascule, je me rappelle plus de rien. Quand je commence en fait à reprendre conscience, on va dire, j'ai les yeux fermés et j'ai l'impression en fait que j'ai dormi, que je suis dans mon lit. Mais c'est très inconfortable.
Tu sais pas encore où t'es ?
Je sais pas du tout. Et quand je commence à ouvrir un petit peu les yeux, je m'aperçois que je suis pas dans mon lit du tout. J'ai extrêmement mal. J'ai l'impression que mes yeux essaient de sortir de ma tête et qu'on essaie d'appuyer dessus pour les re-rentrer. Et là, je me demande ce qui se passe. Je vois que je suis dans ma voiture. Et là, tout de suite, je me dis pourvu que je ne sois pas endormie au volant et que...
C'est ce que tu as pensé en tout premier. Tu t'es dit, je me suis endormie.
Je me suis endormie et tout de suite, j'ai pensé pourvu que je ne sois rentrée dans personne, en fait.
Et la première chose que tu as vue en ouvrant les yeux, c'était quoi ?
C'était l'intérieur de ma voiture, mais il y avait quelque chose d'étrange. C'est-à-dire que j'étais couchée sur le siège passager, tenue par la ceinture, ma tête pendée, en fait. Mmh. Et je ne comprenais pas parce que quand j'ai eu l'accident, il faisait nuit. Mmh. Et en fait, là, il y avait un petit peu de lumière, mais vraiment très peu. Et j'avais quelque chose contre la joue, je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai touché avec ma main et je me suis aperçue que c'était en fait le plafonnier, la petite lumière qu'il y a sur le toit.
La lumière du plafond.
Qui était sur ma joue. En fait, le toit était complètement sur moi. J'étais complètement écrasée dans la voiture. Tout de suite, en fait, le réflexe a été de bouger les mains, de bouger les pieds.
Pour voir si tout allait bien.
Si tout allait bien.
C'est ton petit réflexe d'infirmière aussi.
Oui, un petit peu. Et mon ventre, voir si j'avais pas mal au ventre après le choc.
Et là, à ce moment-là, tu penses vraiment, voilà, tu te dis, j'ai eu un accident, et directement, je suis rentrée dans un arbre.
Je suis rentrée dans un arbre juste après un virage. Je l'ai pas vu, j'arrivais trop vite. Je suis rentrée dans l'arbre.
C'est venu assez vite, t'as réalisé assez vite... En retrouvant tes esprits, que c'était ce qui s'était passé finalement.
Voilà, je pensais vraiment que c'était ça qui s'était passé. Et en fait, j'ai commencé à entendre des voix un petit peu à l'extérieur. Et j'ai tourné un petit peu la tête. Et en fait, la vitre côté passager, enfin, on la voyait quasiment plus. Il restait juste 3 cm de lumière, en fait. J'ai appelé et quelqu'un m'a dit... j'ai d'abord entendu... Putain, elle n'est pas morte.
Une voix d'homme ?
Une voix d'homme.
Est-ce que tu as pu répondre ?
J'appelais, moi. S'il vous plaît. Et là, la voix m'a dit, ne bougez pas, les pompiers vont arriver. Et effectivement, très vite, j'ai entendu les sirènes des pompiers.
Est-ce que tu as une notion à peu près du temps que ça a duré ?
D'après l'estimation des pompiers, à peu près 1 heure.
Et cet homme-là, est-ce que c'était la personne qui était derrière toi en voiture dans le pick-up blanc ?
A priori, oui. C'est ce que m'ont dit les pompiers. En fait, cet homme était derrière moi en voiture. Il a vu l'accident. Il a été obligé de partir pour appeler les secours parce qu'il n'y avait pas de réseau à cet endroit-là.
Donc, il a été obligé de quitter
l'endroit.
Et de te quitter, en fait, pour pouvoir appeler les secours.
Pour appeler les secours.
Terrible.
Et il est revenu par la suite pour rester à côté de moi et sécuriser pour pas qu'il y ait un suraccident, en fait. Donc, il avait arrêté les voitures devant et derrière. Et il y avait plusieurs personnes, là, en fait, autour de la voiture. Mais moi, je les voyais pas, je les entendais juste parler.
Et c'est une route que t'empruntes tous les jours ?
Tous les jours, plusieurs fois par
jour. Que je connais
par cœur.
« Suite à l'arrivée des secours, qu'est-ce qui s'est passé ?
Donc, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « Madame, c'est les pompiers, est-ce que vous êtes seule dans la voiture ?»
T'arrives à répondre à ce moment-là ?
J'arrive à répondre, je leur fais un petit briefing de ce que je ressens, j'ai mal au dos, au cou, je bouge mes bras, mes jambes. Et là, ils me disent de ne pas m'inquiéter, qu'ils vont s'occuper de me sortir de la voiture. Et là, en fait, un des pompiers qui était présent, le plus menu en fait des pompiers, a réussi à monter à l'arrière de ma voiture, à se glisser à l'arrière.
Est-ce qu'on peut donner le nom qu'on donne à ces pompiers qui arrivent à se, qui sont peut-être plus fins, qui arrivent à mieux se glisser ?
L'écureuil.
Bon. Dans toute cette histoire, je trouve quand même que c'est plutôt mignon.
Oui, hein, c'est plutôt drôle. Donc, il s'est glissé à l'arrière de la voiture. Il a réussi à descendre un petit peu mon siège, à l'allonger un petit peu. Il m'a mis une minerve. Il a réussi à me redresser. Et il m'a couvert avec une énorme couverture. Et il s'est couvert avec moi. Et tout de suite, je lui ai demandé s'il y avait eu d'autres voitures, si j'avais blessé personne.
En fait. C'est ce à quoi tu as pensé immédiatement, tu t'es
immédiatement.
Dit...
Immédiatement, j'avais très très peur d'avoir fait du mal à quelqu'un.
Plus que de te dire, est-ce que vraiment je vais bien, puisque tu ne pouvais pas vraiment savoir à ce moment-là. Et du coup, la couverture, il te l'a mis pourquoi ?
Il me l'a mise parce qu'après, il m'a expliqué qu'en fait, donc un arbre était tombé sur ma voiture. Que ce n'était pas...
En fait, ce n'était pas du tout
un arbre. Voilà. Et l'arbre était tombé à mon passage. Il était tombé juste au-dessus de moi. Et m'avait aplati comme une mouche, quoi.
Toi, ce n'est pas du tout les souvenirs que tu en as. En plus,
bah,
tu as vraiment cru que tu t'étais endormie.
C'est ça. Et en fait il m'a expliqué que la personne qui avait appelé les secours avait dit « Dépêchez-vous, elle est morte. Elle est morte. » Et en fait, le pompier m'a dit que quand ils sont arrivés avec le véhicule et qu'ils ont vu la voiture sous l'arbre, ils se sont dit « C'est sûr, elle est morte.
Bah, » oui, il y a peu de... Dans ces cas-là, il y a rarement de chance de...
C'est ça.
Comme toi, de se pencher sur le côté passager. C'est assez rare. Et est-ce que tu sais le type d'arbre que c'était ?
C'était un pin. Un immense pin.
Et comment ils ont pu te dégager de la voiture, du coup ?
Ben en fait, il a fallu qu'ils découpent d'abord l'arbre, puis toute la voiture. Donc les portières, le toit, ça a pris 1h30 environ.
Ah ouais, quand même.
Donc pendant 1h30, le pompier qui était avec moi à l'intérieur de la voiture m'a expliqué étape par étape, m'a rassuré.
Il te parlait tout le temps ?
Il me parlait tout le temps, il me demandait de ne pas m'endormir. Voilà.
Il est resté avec toi,
sous la
couverture ?
Sous la couverture, tout le temps. Tout le temps.
Suite à la désincarcération, est-ce qu'il t'emmène à l'hôpital ? Est-ce que toi, tu sens que tu as mal quelque part ? Est-ce que tu avais l'impression de t'être cassé quelque chose ?
Alors, cassé, je ne savais pas, mais j'avais extrêmement mal au cou, au dos, à l'épaule, à la mâchoire. Parce qu'en fait, après, un énorme bleu est sorti sur mon visage. Donc, j'ai tapé la figure sur le volant avant de tomber sur le siège passager.
Le côté du visage ?
Le côté gauche, en fait. J'avais la marque du volant. J'avais l'oreille violette et tout le côté du visage. On voyait bien le volant. Donc, ils m'ont sorti, m'ont mis sur un brancard dans un matelas coquille avec une énorme minerve qui faisait très, très mal. Je leur ai demandé de prendre mon sac et de prendre mon téléphone et de faire des photos de la voiture.
D'envoyer des stories. Non, c'est terrible.
Voilà, non, je voulais avoir des photos, je voulais me rendre compte en fait, parce que je voyais pas. Je voyais pas du tout ce qui s'était passé, j'avais besoin de ça.
Mais tu avais l'esprit quand même super vif pour penser à tout ça à ce moment-là. Enfin, t'avais quand même retrouvé tes esprits, t'arrivais à quand même...
Mais en fait, j'ai jamais eu peur, j'ai jamais perdu le contrôle, si ce n'est la peur d'avoir fait mal à quelqu'un au départ.
Oui, c'est le seul truc qui te...
C'est ça.
Est-ce qu'ils ont pris les photos, du coup ?
Ils ont pris des photos.
De suite ?
De suite, ils ont été adorables. Ils ont pris des photos, ils m'ont rentré dans le véhicule, et là, j'ai demandé à pouvoir appeler mon mari pour le prévenir.
Et à ce moment-là, ils ont prévenu Jean-Marie.
Donc en fait, ils ont pris mon téléphone et ils me l'ont collé à l'oreille pour que je puisse lui parler.
D'accord.
Pour que ce soit moi qui l'entende ma voix, qui n'ait pas trop peur.
Qui n'ait pas trop peur d'avoir un appel des pompiers.
Voilà. Et donc, mon mari a réveillé mes enfants qui étaient en vacances pour leur dire que j'avais eu un accident, mais que tout allait bien parce que il m'avait parlé, il savait que j'allais bien.
Donc là, tu te retrouves à l'hôpital pour faire un petit check-up.
Oui.
Et du coup, en sortant de l'hôpital, quel était le diagnostic ?
Diagnostic, c'était le trauma crânien, entorse cervicale sévère, contusion au niveau de l'épaule, le visage. Et pour l'instant, c'était tout.
Et est-ce que c'est... Enfin, les gens se sont dit un peu que c'était surprenant, vu le type d'accident que c'était. Est-ce que quand t'es arrivé à l'hôpital et qu'on connaît la cause de l'accident, les médecins se sont pas dit, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave, quoi.
Oui, non, mais je repense au médecin, c'est un interne qui est rentré, donc on m'avait mis dans ce qu'on appelle le box de déchocage, donc pour les gros traumas. Et en fait, quand il est rentré, il a dit, il est où le gros trauma?
Et en fait,
quand il m'a vu, qu'il a vu les radios, je l'ai entendu dire, oh mais c'est que ça.
T'étais pas assez hype pour c'est le ça. Déchocage.
C'est ça, j'étais pas assez ouverte et balafrée et fracturée.
T'étais pas assez hipster.
Ouais.
Et suite à ton départ, du coup, t'es restée combien de temps à l'hôpital?
Je suis restée quelques heures.
Pas plus.
En fait, ils m'ont dit, justement, comme j'avais pas de fracture, ils m'ont dit que c'était bon, je pouvais sortir avec ma Minerve.
Et Jean-Marie, à ce moment-là, était avec toi?
Ouais, il était avec moi. Quand il est arrivé, c'est là aussi que j'ai un peu pris la dimension de ce qui s'était passé. C'est que quand il est rentré, en fait, je pense qu'on avait dû lui parler un petit peu à l'accueil déjà. Et quand il est rentré, il m'a vu, il s'est mis à pleurer.
J'imagine que ça doit être quand même choquant de voir sa femme à l'hôpital, surtout quand on connaît la cause. Enfin, moi, je pense que j'aurais été terrible à l'accueil. Et suite à la sortie de l'hôpital, du coup, t'es allée voir ta voiture
Le lendemain.
Le lendemain, donc t'as même pas attendu,
non.
Tu n'as pas de temps à perdre, Isabelle.
Non, c'est ça.
On veut savoir ce que la voiture.
Voilà, je voulais voir ma voiture et puis avec Jean-Marie, on a pensé que c'était une bonne chose en fait de tout de suite aller voir la voiture et de retourner sur les lieux de l'accident.
D'accord, parce que ça te permettait peut-être de remettre le puzzle en place.
C'est ça.
Et c'était quoi comme voiture ?
C'était une super Panda 4x4, jaune pâle, que j'adorais. Et les pompiers m'ont dit qu'elle m'avait sauvé la vie, donc je l'aime d'autant plus.
On adore les Fiat Panda. Les Fiat Panda, si vous nous écoutez, on vous aime. Et à la caisse, du coup, qu'est-ce qui t'a frappé?
En fait, c'est le fait de voir ma voiture dans cet état-là.
Tu t'y attendais pas?
Je m'y attendais pas du tout. En fait, j'avais vu les photos que les pompiers avaient prises, mais de la voir... C'était très impressionnant parce qu'en plus, ils avaient remis les portières à l'intérieur de la voiture.
En fait, oui, ils ont tout découpé. En fait.
Ils ont tout découpé, ils ont tout remis dans la voiture et reposé le toit par-dessus.
Oui, j'ai vu les photos, ils ont vraiment remis le toit comme c'était.
Ouais, en fait, on dirait une Panda Méhari. C'est
décapotable. C'est pas marrant, mais bon. T'avais laissé beaucoup de choses dans la voiture.
Mais j'avais mon matériel, en fait.
Et t'as pu le récupérer, il était
J'ai pu le récupérer,
bon état.
J'ai récupéré mes CD, ma clé USB. Et au fond de mon sac à main, j'ai retrouvé des morceaux de verre, en fait, de mon pare-brise et des petits morceaux d'arbres.
Ah,
et
oui.
Je les ai gardés, je les ai mis dans un petit sac d'organza. Et en fait, je les ai tout le temps avec moi quand je travaille.
D'accord.
Donc c'est devenu mon gris-gris.
C'est ce que t'as gardé
De la voiture, oui.
Et est-ce qu'après aller voir ta voiture, t'as eu envie de retourner sur le lieu de l'accident?
Dans mon souvenir, donc c'était au détour d'un virage et que l'arbre était sur la route. Donc les pompiers m'avaient déjà dit que l'arbre n'était pas sur la route. Et là, en fait, en arrivant dans le virage où je pensais que ça s'était passé, donc je dis à mon mari, c'est juste après. Et en fait, là, rien. Donc on a continué et en fait, c'était beaucoup plus loin, sur une grande ligne droite.
Et là, même si on te l'avait dit, t'as pris conscience que ça s'était pas du tout passé comme le souvenir que tu t'étais fait de l'accident.
Un souvenir écran, en fait.
Ça s'appelle un souvenir écran.
Ça s'appelle un souvenir écran.
Et tu t'en es rendu compte au moment où t'es arrivé sur la route, tu t'es dit, oula, mon souvenir est pas comme ça s'est passé. Tu t'en es rendu compte de suite?
De suite.
Et tu t'es dit que ton cerveau t'avait joué un tour.
Un tour. J'ai appris par la suite que c'était le cerveau, en fait, qui mettait en place un souvenir pour protéger de la réalité, parce que ça avait été trop violent.
C'était trop d'informations à processer d'un coup. Jean-Marie, il a réagi comment quand il a vu l'arbre? Il a, j'imagine, pris la dimension de tout ce que c'était et tout ce qu'il n'avait pas vu, du coup.
Oui, surtout que, en fait, on ne se rend pas bien compte, mais c'était un arbre centenaire. Donc, c'était un très, très gros arbre.
Mais qui ne fait pas le poids contre une Fiat Panda. Alors, du coup, après tout ça, t'es fatiguée et tu rentres à la maison.
Oui.
Et comment se passent les jours après ton retour?
C'est une période compliquée parce que j'ai très mal.
D'accord. Physiquement, c'est
difficile. Ensuite, je pense énormément, en fait, à la manière dont s'est passé l'accident et je suis très embêtée de ne pas me rappeler. Donc, j'arrête pas de me remémorer l'accident, le souvenir que j'en ai, tout ce qui s'est passé. Et j'ai un blanc, en fait, un énorme blanc, là, plus d'une heure. Et ça me dérange énormément.
Tu n'arrives pas à recoller les morceaux, il manque un bout.
Et c'est compliqué parce que même quand je dors, en fait, je rêve de l'accident, tout le temps.
J'imagine qu'on te met en arrêt maladie, que ouais. Tu ne peux plus aller faire tes tournées, voir tes patients, etc. Donc, tu es à la maison. Et qu'est-ce que tu fais de tes journées?
Je pleure.
Ouais.
Assez rapidement, je me mets à faire du vélo d'appartement.
D'accord.
Parce que je m'ennuie. Et puis, il y a des choses que j'ai beaucoup de mal à faire. Et j'ai besoin d'aide, en fait. J'ai besoin de l'aide de mon mari, ne serait-ce que pour lacer mes chaussures, des fois pour m'habiller, parce que j'y arrive pas, en fait.
Tu te sens pas autonome?
Non, tout le haut du corps est... Et trop meurtri, en fait.
Le bas, t'arrivais à faire du vélo?
Il n'y avait aucun souci. Mais il fallait que je reste assise droite, en fait. Et les mouvements, dès que je me penchais, j'avais la tête qui tournait, j'avais d'énormes vertiges, tout le temps mal à la tête, mal au cou, mal au dos, mal à l'épaule. Quand j'y repense, je me dis qu'en fait, j'étais vraiment un bébé, quoi. Mais vraiment.
Comme un bébé.
J'étais incapable de faire quoi que ce soit toute seule.
Et est-ce qu'à ce moment-là, tu décides de partager cette frustration de ne pas se souvenir avec ta famille, donc du coup avec Jean-Marie ou avec les enfants, pour essayer de recoller un peu ensemble l'histoire?
Tout le monde autour de moi me dit mais c'est normal, avec le choc que tu as eu, c'est normal, ne cherche pas à faire revenir les choses, si elles doivent revenir, elles reviendront, quoi.
Et est-ce que t'as noté un vrai changement en rentrant à la maison, de choses que tu faisais pas forcément avant, mais là tu te retrouves, t'es quand même quelqu'un de très actif et de très dynamique, et là tu te retrouves à la maison fatigué, coincé. Est-ce que tu fais des choses que tu faisais pas avant, du coup, pendant ce laps de temps-là?
J'ai beaucoup de mal à dormir. J'ai énormément de mal à dormir, et quand je dors, en fait, je me réveille en panique. Parce que je rêve beaucoup de l'accident. Et souvent, quand je me réveille, je ne sais pas où je suis. Je mets du temps à savoir qui je suis, qui est à côté de moi. J'entends respirer, mais je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas où je suis. Je mets à chaque fois quelques minutes pour me rendre compte, en fait, du lieu. Et
tu ne reconnais plus trop la maison?
Je ne reconnais plus trop la maison. Je fais un petit peu le tour de la maison. Et finalement, je me cale dans le canapé et je me mets à regarder des séries ultra violentes.
Que tu regardais pas avant.
Je regardais pas avant, qui m'intéressait absolument pas. Et en fait, je me nourris de violence, mais vraiment. Et je pleure. Je pleure sur le canapé. Et mon mari me retrouve là, prostré sur le canapé. Et il essaie de me rassurer. Et il est très bienveillant.
Il essaie d'être là, tout simplement. Et les enfants, ils étaient un peu plus petits, hein, du coup. C'était,
ouais, c'était il y a 6 ans.
6 ans. Et eux, est-ce qu'ils essayent d'être là malgré tout et de se dire on sait pas trop quoi faire, mais
c'est ça. Eux, ils étaient bon, ils ont été choqués de toute façon,
bien sûr,
et très attristés de me voir comme ça. Ils sont adorables.
ils le sont toujours,
ils l'ont toujours été, mais là ils sont particulièrement adorables et ils s'occupent de moi. J'ai droit à plein de câlins tout le temps. Ils essaient de tout faire pour m'aider.
D'accord. Est-ce que pendant ce temps où tu es à la maison, le plus dur, c'est de te dire que tu ne sais pas trop ce qui s'est passé pendant cette heure approximative où tu as été inconsciente, que tu sais ce qui s'est passé?
Oui, je sais ce qui s'est passé, mais c'est pour ça que je suis mal aussi, parce que je n'ose pas en parler. et parce que même moi, j'ai du mal à l'accepter.
Et est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé pendant cette heure-là ?
Ce qui s'est passé, c'est un état très particulier. Un état de bien-être extrême.
Juste après le choc ?
Juste après le choc. Je ne connaissais pas cette sensation, je ne l'ai plus jamais ressentie depuis. C'est une absence de douleur, de pesanteur. On a l'impression vraiment de ne plus avoir de corps.
Donc là, tu pars dans un état que tu n'as jamais connu ?
Que j'ai jamais connu.
Est-ce qu'il y a des sensations précises ?
C'est indescriptible, la sensation, en fait.
Et la vision, est-ce que tu as un souvenir précis de ce que tu voyais à ce moment-là ?
Une lumière.
Une lumière ?
Une lumière, et plus je me rapprochais, plus j'étais bien. Jusqu'au moment, en fait, où j'ai arrêté d'avancer et où j'ai entendu une voix. C'était une voix que je ne connaissais pas. Je suis incapable de dire si c'était un homme ou une femme. Et c'est une voix qui m'a parlé, qui m'a dit que c'était pas le moment, qu'il fallait que je reste pour les gens qui m'aimaient, pour des gens qui allaient avoir besoin de moi et que des personnes que je ne connaissais pas encore allaient avoir besoin de moi.
Et c'est une sensation de voix.
On ne peut pas le décrire, c'est comme la lumière en fait. On parle de lumière, mais c'est très étrange. C'est assez indescriptible en fait. On entend, on voit, mais sans vraiment le voir et l'entendre.
Donc il n'y a plus vraiment de sentiment de dimension telle qu'on...
On n'a plus vraiment l'impression d'être un corps en fait.
D'accord.
On n'a plus vraiment de corps.
Et ça, tu penses que ça a duré longtemps dans tes souvenirs Ça allait vite ou ça a pris du temps?
Ça a pris du temps dans mon souvenir parce que on a cité des noms, des prénoms de gens que je connaissais déjà, les prénoms de ma famille proche, de D'accord. mes parents, et des prénoms de personnes que je ne connaissais pas en fait.
Et cette voix, elle te semblait familière ou c'est une voix que tu connaissais pas?
C'est une voix que je connaissais pas. Mais je suis persuadée, et je ne sais pas pourquoi, mais je suis persuadée que c'était la voix de ma sœur, en fait.
D'accord.
Une sœur que je n'ai pas connue, qui est décédée avant ma naissance.
De qui tu ne connais pas la voix, du coup ?
Voilà. Elle aurait 53 ans et elle est décédée à 6 mois, à l'âge de 6 mois.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu décides de faire au moment où on te dit que c'est pas ton heure ? Il y a des gens qui ont besoin de toi. Comment tu te sens ? Est-ce que tu as envie de revenir ? Est-ce que tu n'as pas envie de revenir ?
C'est très étrange parce qu'en fait, je décide de revenir vraiment pour ma famille.
D'accord.
On a l'impression, enfin moi, j'ai eu l'impression d'avoir le choix. Et à ce moment-là, je me dis oui, il ne faut pas que je parte. Il y a mes enfants, mon mari, ma famille, mes parents. Et je décide de rester.
Et de revenir. T'as l'impression de revenir dans ton corps ?
En fait, ça coupe. Ça coupe et je me réveille dans la voiture.
Alors, ce type d'expérience ont un nom. Il y a plusieurs millions de personnes qui l'ont vécu au monde. On estime même qu'on s'approche des 4% dans le monde, ce qui fait énormément de gens. Ça s'appelle des EMI, des expériences de mort imminente. Et ce qui, moi, me frappe, outre plein de choses, c'est que ce sont des gens qui ne se connaissent absolument pas, qui décrivent le même type d'expérience, c'est-à-dire souvent on retrouve des similarités cette lumière dont on parle qui n'est pas vraiment une lumière parce qu'on ne peut pas vraiment expliquer ce que c'est. Donc la plupart des gens disent, le plus simple c'est de dire que c'était une lumière. Souvent on entend aussi un son familier ou une voix familière, c'est assez récurrent dans les récits de ces gens qui ont vécu ça. Du coup, toi, est-ce que tu penses que ton expérience se rapproche d'une expérience de mort imminente ?
Après toutes ces années, oui.
Est-ce que tu connaissais un peu ce terme-là avant ? Est-ce que tu l'avais déjà entendu ?
Vaguement, je crois, un peu comme tout le monde.
Tu t'y es jamais vraiment intéressée ?
Non.
Et est-ce qu'après ça, tu as commencé à te renseigner un petit peu sur, pour savoir si des gens avaient vécu la même chose ?
On en a parlé avec mon mari quelques années après, quand j'ai pu lui dire et en discuter avec lui. Mais en fait, j'ai gardé cette expérience vraiment pour moi et j'avais pas trop envie de le partager ou de lire ou d'entendre autre chose là-dessus, en fait.
Pourquoi ? Pourquoi t'avais pas trop envie de... Est-ce que c'était trop compliqué ? T'avais l'impression qu'on pouvait pas comprendre ?
C'était hyper compliqué. On a l'impression d'être un peu fou quand même. Hein, quand
Bah, disons qu'on vit pas ça tous les jours. Enfin, je crois pas.
Voilà, et puis en plus, moi j'en rigolais un peu en me disant, il y a des prénoms, je connais pas la personne, quoi, donc je vois pas bien.
Ouais, ça collait pas en fait.
Ça collait pas. Voilà, ça collait pas.
Et dans les jours qui ont suivi, et même les semaines, t'as aussi commencé à revivre un peu ce type de sensation-là, mais autrement.
Ouais. C'est ce que j'appelle les rêves particuliers. Donc en fait, je m'endormais et j'avais l'impression que mon esprit en fait s'échappait de mon corps, que je me retrouvais assise en tailleur dans la tête de quelqu'un que je voyais à travers ses yeux. Une scène qui se passait. C'est super flippant.
Et ça t'était jamais arrivé avant ?
Ça m'était jamais arrivé avant et je me réveillais donc dans un état de frayeur totale, complètement perdue. Et par la suite, il m'est arrivé, après quelques temps après ces rêves, en fait, de voir les personnes, de croiser les personnes dans certaines situations, des personnes que j'avais vues à travers les yeux d'autres, en fait, pendant ces rêves-là.
Et tu t'as fait le rapprochement en te disant cette personne-là, je l'ai vue ?
C'est effrayant. C'est effrayant. Parce que contrairement à des rêves normaux, c'est extrêmement marquant. On voit, on se rappelle bien, et on voit bien les visages et on se rappelle bien. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Je me rappelais extrêmement bien des visages. J'avais énormément de troubles cognitifs.
Des pertes de mémoire.
Des pertes de mémoire énormes. Avec des crises de larmes, je retrouvais plus ce que je rangeais. C'était assez perturbant. Une fois en fait, mon mari m'accompagne à une réunion avec mes collègues pour récupérer des papiers. J'avais pris une pochette verte, j'avais mis les papiers dedans. On est rentré à la maison, j'ai déposé cette pochette sur le bureau. Et deux jours après, j'ai décidé de m'occuper des papiers et je me suis assise au bureau, il n'y avait plus la pochette. Je l'ai cherchée partout pendant des heures, impossible de mettre la main sur la pochette. Et mon père est venu à ce moment-là, mes parents habitent juste à côté de chez moi, et mon père est venu avec la pochette à la main en me disant « Tiens, j'ai trouvé ça dans ma voiture ». Donc déjà, je ne comprenais pas ce que faisait la pochette dans sa voiture, mais comme à l'époque, je ne conduisais pas, j'avais des rendez-vous médicaux. En fait, j'étais toujours tributaire de quelqu'un pour m'amener quelque part, je me suis dit « J'ai dû la prendre pour montrer au médecin, j'avais dû mettre autre chose dedans. Donc je prends la pochette, je me rassois au bureau, j'ouvre la pochette, elle était vide. Donc j'ai
commencé à faire beaucoup.
Voilà, j'ai démonté toute la maison, j'ai pas trouvé les ordonnances. J'ai pleuré comme une madeleine et mon mari, en rentrant le soir, m'a trouvé prostrée sur le canapé en train de pleurer.
Tout prend une dimension énorme.
C'est ça, c'était abominable. Et en fait, quelques jours après, j'ai ouvert le congélateur pour prendre du poisson pané et les ordonnances étaient sous
J'allais te
le
dire, est-ce
pané.
Que tu l'avais pas mis dans le congélateur ?
Voilà. Et ouais. J'ai retrouvé des choses improbables dans des endroits improbables, découverts dans le bac à linge. Enfin, c'était mon quotidien et c'était assez épouvantable. Et j'en venais à me demander en fait si quelqu'un ne me voulait pas du mal et si quelqu'un ne faisait pas exprès de cacher les choses à la maison. Je devenais un peu paranoïaque en fait.
Et toi, tu ranges pas les couverts dans ton lave-linge ?
Non. En général, non.
Ah bon, ok.
Non, on en apprend tous les jours.
Et t'as découvert que c'était toi ? Tu sais toujours pas si quelqu'un met des ordonnances dans le congélateur.
Ouais, mais c'était moi, de toute façon. Oui. Voilà, il n'y avait personne d'autre qui touchait au papier. Et comme j'étais seule, de toute façon, toute la journée à la maison.
En fait, oublié, tu mettais les choses quelque part. Et
c'est ça. En fait, je pense que mon esprit était tellement, tellement pris par ce que j'avais vécu que je faisais des choses automatiquement et n'importe comment.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Donc à ce moment-là, t'as pas encore vraiment mis des mots pour l'annoncer à tes proches, pour expliquer ce que t'avais vécu et ressenti. Comment t'as trouvé le déclic pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça ?
Donc en fait, 3-4 mois après l'accident, j'avais un souci avec mon assurance. Parce qu'elle n'arrivait pas à avoir le remboursement de certains frais de la part de l'assurance de l'arbre. Enfin bon, c'était un peu compliqué.
Donc, l'assurance de l'arbre ?
Oui, mais en fait, l'arbre était assuré par la municipalité sur laquelle il se trouvait. Donc en fait, il voulait faire passer ça en catastrophe naturelle parce qu'il y avait une tempête et qu'il avait beaucoup plu les jours d'avant. J'ai décidé d'aller voir un avocat spécialisé dans les accidents de la route et de la voie publique. J'étais encore très mal. Je me suis retrouvée assise 2 heures sur une petite chaise très inconfortable. J'étais vraiment dans un état assez pitoyable quand je suis rentrée dans le cabinet de l'avocat, qui en imposait en plus... Je n'avais pas l'habitude, c'est la première fois que je voyais un avocat. Et donc, je lui explique qu'un arbre est tombé sur ma voiture et que l'assurance ne veut pas payer. Et donc, il me dit, mais on vous a remboursé l'assurance, la voiture. Et je lui dis, oui. Il me dit, mais je ne vois pas pourquoi vous voulez autre chose. Et en fait, je me rends compte que je ne lui avais pas expliqué ce qui s'était passé.
Bah dans la voiture, quoi.
Que j'étais dans la voiture. Et donc là, en fait, il change complètement de comportement et il voit que je suis complètement déconfite. Et il me dit, est-ce que vous ressentez des terreurs nocturnes ? Est-ce que vous avez des sautes d'humeur ? Est-ce que vous avez des troubles de la mémoire ? Et en fait, il me fait toute une liste de tout ce que je ressentais. Et là, je me suis mise à pleurer. C'était la première fois que quelqu'un mettait des mots sur ce que je ressentais.
Tu cochais toutes les cases ?
Toutes les cases. Et il m'a dit, mais est-ce que vous avez vu un neurologue ? Est-ce que vous avez passé un scanner, un IRM ? Est-ce que vous avez vu une neuropsychologue ? Est-ce que vous avez passé des tests ? Et en fait, on ne m'avait parlé de rien de tout ça. Et donc, il m'a dit, mais vous faites un stress post-traumatique ? Donc, suite à ça, il m'a conseillé un neurologue spécialisé. J'ai été voir le neurologue, j'ai passé tout un tas d'examens. Je me suis retrouvée dans un service de neurologie à l'hôpital Nord à Marseille.
En fait, il savait tout ça parce qu'il avait des clients à qui il était arrivé la même chose ?
À qui il était arrivé la même chose. Et parce qu'il était spécialisé, lui aussi, il faisait des études en parallèle sur le stress post-traumatique.
D'accord. Oui, donc il était...
Il était bien au courant de tout.
Il était bien au courant de tout ça. Donc, il t'a conseillé une personne, il t'a recommandé un neurochirurgien, c'est ça ?
Un neurologue.
Neurologue, pardon. Alors, il t'a conseillé un neurologue, à Marseille aussi ?
À Marseille aussi.
D'accord.
Et j'ai passé toute une batterie de tests et qui n'étaient pas super, super top, quoi.
D'accord.
Voilà.
Et qu'est-ce que le diagnostic du neurologue a donné ?
Trauma crânien, gros stress post-traumatique, j'avais de grosses séquelles. De très grosses séquelles neurologiques, en fait.
Même plusieurs mois après, du coup, ça se voyait
Ça a perduré pendant plusieurs années, même.
Suite au neurologue, est-ce que tu décides de voir d'autres gens pour faire un suivi et pour essayer de prendre en main cette situation-là ?
Donc, j'avais déjà commencé à voir une psychologue suite à la visite chez l'avocat.
T'as mis longtemps avant de te décider à aller voir quelqu'un ?
Alors, la psychologue, ça a été assez rapide. Elle m'a beaucoup aidée, mais rapidement, je me suis aperçue qu'en fait, ça ne suffirait pas. Mon mari, entre-temps, qui avait très, très envie de m'aider, qui ne savait plus du tout par quel bout commencer, avait commencé une thérapie avec une psychanalyste et avait entamé des études pour devenir psychanalyste lui-même. Ça faisait longtemps qu'il en avait envie. Et là, ça a été vraiment l'occasion et le déclic.
Suite à cette rencontre avec l'avocat, la neuropsychologue et la psychologue, est-ce que tu arrives à tout expliquer à Jean-Marie à ce moment-là ?
Pas totalement encore. Je lui dis que j'ai entendu des choses. Parce qu'en fait, il y a eu des petits trucs tout bêtes suite à des rêves un peu particuliers où je savais ce qui allait se passer. Des espèces de prémonitions. Et donc, je lui disais, non, mais c'est pas la peine de t'inquiéter, tu vas voir ça va arriver. Et effectivement, ça a arrivé.
Et Jean-Marie, qui est plutôt cartésien, finalement...
Au début, c'était très compliqué pour lui. Et il se retranchait derrière, non, mais le trauma crânien, stress post-traumatique. Pour lui, c'était pas possible.
On met un peu ça sur le compte de ce terme-là, un peu fourre-tout.
C'est ça,
stress post-traumatique. Est-ce que dans les mois qui ont suivi, ton comportement a changé par rapport à avant ?
Il a changé complètement. J'ai perdu 20 kilos, j'ai repris le travail, j'ai été obligée de reprendre le travail contre avis médical.
Combien de temps t'as été arrêtée ?
J'ai été arrêtée 6 mois et demi.
Donc t'as repris au bout de 6 mois et demi ?
J'ai repris au bout de 6 mois et demi.
D'accord.
Parce que financièrement, ça devenait compliqué parce que mon assurance arrêtait de payer, en fait, mes indemnités journalières. Donc, j'ai repris le travail et là, c'était très compliqué parce que j'avais toujours ces problèmes de mémoire. Donc, il m'arrivait de me perdre sur la route. C'est un tout petit village où je travaille et en fait, c'était très étrange parce que je savais où il fallait que j'aille, mais je ne savais plus comment y aller. Donc, je m'arrêtais au bord de la route et je pleurais en attendant que ça revienne. Et j'ai commencé à me dire qu'en fait, il y avait quelque chose d'irréel dans tout ça. Et que finalement, peut-être que j'étais pas vivante.
T'arrivais plus à savoir ce qui était réel et ce qui l'était pas.
C'est ça. Je savais plus si j'étais vivante. Ou alors, je me disais, ou alors tu es toujours dans la voiture. En fait, c'est un rêve. Ou je me disais, tu es dans le coma. Et ce que tu vis, c'est pas réel, en fait.
Oui, t'arrivais plus à... En fait, je pense que c'est une expérience tellement... hors du temps, où il n'y a plus vraiment de dimension de tout qu'on se dit. Et pourquoi finalement, si tout ça c'est possible, est-ce que la vie que je mène, c'est ma vraie vie, quoi ?
C'est ça. Et j'ai commencé du coup à me dire, après tout, je risque rien puisque c'est pas vrai, quoi.
Oui, c'est pas la vie. C'est pas la vraie vie.
C'est pas la vraie vie.
Et qu'est-ce que t'as fait ?
J'ai commencé à faire un peu n'importe quoi. Je m'amusais le soir en rentrant à la maison, quand il faisait nuit, comme c'était des petites routes de campagne. Si je ne voyais pas de phare, qu'il n'y avait personne, j'ouvrais les fenêtres de ma voiture en grand. Je mettais les Foo Fighters à fond dans la voiture et j'éteignais les phares. Et je fermais les yeux et je roulais comme ça à fond.
En disant que, au final, quoi ?
Qu'au final, je ne risquais pas grand-chose. Et que, au pire, j'étais déjà morte.
Est-ce que tu arrives à retravailler normalement, à pouvoir t'occuper de tes patients et à reprendre une vie plutôt normale ?
Normale en apparence. Je dors toujours très mal, je fais toujours d'horribles cauchemars, je suis toujours irascible. Et là, je me dis que je crois que c'est vraiment pour mes enfants, une fois de plus. Pour mes enfants et pour mon mari, que je décide de faire quelque chose. Et ça faisait quelques temps que mon mari avait parlé à sa psy et elle lui avait conseillé une psychanalyste aussi. Et il laissait traîner des bouquins à la maison sur le stress post-traumatique, sur tout ça. Et il m'avait ramené la carte donc de Julie, d'une psychanalyste qu'il connaissait un peu par l'école aussi. Et il me disait, ce serait bien que tu la vois, mais je faisais un peu la sourde oreille. Jusqu'au moment où j'ai eu l'impression que mes enfants étaient en souffrance, en fait, de me voir souffrir. Mon mari l'était. Et je me suis dit, tu peux pas continuer comme ça. Si tu n'es pas dans un rêve, tu peux pas continuer comme ça, en fait.
Et là, on est en quelle année ? Est-ce qu'on est longtemps après l'accident ?
Là, on est presque 2 ans après.
Donc on est en 2017.
Ouais.
Et là, tu te décides à aller voir une psychanalyste. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre une psychologue, par exemple, que tu avais déjà vue, et une psychanalyste ?
La psychologue va plus, en fait, travailler sur ce qui ne va pas par rapport au moment présent. Une psychanalyste va plus faire travailler sur ce qui ne va pas à cause de ce qui s'est passé dans le passé.
D'accord. Donc, tu as travaillé sur des choses qui remontaient bien avant ton accident. Tu as remonté loin ?
Très loin. En fait, l'accident a ouvert une espèce de porte sur tout un tas de choses, des choses que j'avais mis derrière un rideau de petite. Pas forcément des choses graves, mais des choses qui font qu'on se construit un peu de manière bancale. Et l'accident n'a fait que couvrir cette porte.
Et est-ce qu'on peut donner un peu l'anecdote ? Est-ce que tu peux nous donner le nom de ta psychanalyste ?
En fait, quand je l'ai appelée, je n'avais pas regardé son nom, j'avais vu que son prénom. Et quand je l'ai appelée, que j'ai pris mon agenda pour noter le rendez-vous, je me suis aperçue qu'elle s'appelait Madame Tron.
Est-ce que tu lui as dit ?
Je lui ai dit au bout de quelques séances, en fait. Je lui ai dit, vous vous rendez compte quand même que je viens vous voir pour un arbre qui est tombé sur ma voiture et que vous appelez Tron. Ça m'a beaucoup fait rire.
Elle a le sens de l'humour, c'est pas mal. Est-ce que ça t'a fait du bien, du coup, de faire cette psychanalyse ?
Ça a été vraiment une révélation. Ça a mis, en fait, en équilibre quelque chose qui s'était fracturé en moi, en fait. L'accident a fait que mon moi, pour parler psychanalyse, s'était scindé en deux. Et je n'arrivais pas à me réunifier. C'est pour ça que j'avais cette impression toujours d'irréalité. Et j'ai appris, du coup, grâce à elle et grâce à la parole, à accepter aussi ce qui s'était passé pendant l'accident, pendant le blackout, et à comprendre que je n'étais pas folle.
Et tu as pu lui parler librement de ton EMI, de ce que tu avais vu, de ce que tu avais ressenti ?
Et de tout ce qui se passait. Et en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant et d'extrêmement ouvert. Oui, elle m'a appris à accepter ce qui s'était passé.
Et qu'on ne peut pas tout savoir et que si on ne sait pas, c'est pas grave.
Et qu'on n'est pas obligé de tout comprendre. Parce qu'il y a des choses qui se passent où on ne peut pas forcément mettre des mots et une explication dessus.
Aujourd'hui, donc on est 5 ans après tout ça. Qu'est-ce qui a
6 ans bientôt.
Ouais, 6 ans bientôt. Est-ce que qu'est-ce qui a changé radicalement outre le fait que tu as perdu du poids je sais que tes enfants disent aussi que tu as changé de style vestimentaire.
Ouais.
Par rapport à avant. Est-ce que ça tu le perçois aussi ?
Ah mais carrément. Mes enfants me font beaucoup rire quand on regarde des photos ou qu'on parle d'avant l'accident et ils me disent « mais ça, c'était avant quand tu étais vieille
». Écoute, c'est bien que ça aille dans ce sens-là, il vaut mieux que, qu'on te dise ça.
C'est Benjamin Button. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est pas du tout en adéquation mon corps et mon âge.
Et est-ce que dans tes amitiés, ça a changé quelque chose ? Est-ce que quand on vit ce genre d'expérience, on retourne à sa vie, avec le même entourage ? Est-ce que les amis comprennent ? Est-ce qu'on arrive à, même parfois sans en parler, à être accompagné comme il faut ?
Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, juste après l'accident, les gens sont relativement présents et ils sont là, ils essaient de vous soulager. Et puis au fur et à mesure, quand vous changez, ils ne vous reconnaissent plus. Et là, ils s'éloignent. Et j'ai perdu quasiment tous mes amis.
Parce qu'ils ont l'impression que tu n'es plus la personne qu'ils avaient rencontrée ?
Ben non, non.
Et eux, ils sont plus les amis, du coup, que...
Non, ben non. En fait, je ne vois plus du tout ma meilleure amie depuis 3 ans maintenant. Elle n'a pas du tout compris mon changement. J'avoue que ça a été violent. Hein.
Et toi, tu comprends ce qu'on puisse ne pas comprendre ?
Tout à fait. Tout à fait. Je suis plus du tout la Isabelle d'avant.
Et tu te préfères de ton toi de maintenant ?
Ah mais carrément.
Tu te sens bien dans tes baskets. Et avant, c'était compliqué, tu te sentais... Parce que moi, je t'ai pas connue avant, du coup.
Ouais. Avant, c'était J'étais dans un moule que je m'étais fait moi toute seule. À l'adolescence, je faisais plein de choses. Je faisais de la photo, du chant, du piano. Enfin, je faisais tout un tas de choses artistiques. J'ai arrêté à l'âge de 17 ans quand j'ai rencontré mon mari, en fait. Parce que je voulais me conformer à l'image que j'avais de la famille, donc aux imagos parentaux qu'il y avait autour de moi. Je m'étais franchement abandonnée. Je ne m'occupais pas de moi, je ne m'occupais que de mes enfants, de ma famille. Je voulais être l'épouse parfaite, la maman idéale. Et en fait, je me suis complètement oubliée. Et après l'accident, je me suis réveillée, en fait. Je me suis dit que j'avais la chance d'avoir une deuxième vie.
D'avoir survécu.
J'ai survécu. Et qu'en étant heureuse, je pense que je rends les gens autour de moi heureux aussi.
Bah oui, je te confirme. Et en tant que couple, est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que vous vous connaissez depuis si longtemps.
C'est ça.
Et aujourd'hui, vous êtes ça a été... toujours ensemble. Toujours
oui, aussi heureux. Oui. Mais ça a été très compliqué pour mon mari. Parce que il avait connu une certaine Isabelle pendant 24 ans. On était très fusionnels, on faisait vraiment tout ensemble. Et puis, il s'est retrouvé un matin avec quelqu'un de totalement différent, qui avait besoin de retourner un peu aux sources et à ses rêves d'adolescente.
Mais qui met des ordonnances dans le congèle. Hein.
Ouais, enfin bon, ça a été long avant de changer, en fait. C'était toute la phase de changement qui était difficile. Ouais, pour mon mari, ça a été très compliqué. Très compliqué de voir changer, il me trouvait distante. Et puis j'avais toujours des sautes d'humeur. Et puis j'ai recommencé, en fait, par le biais d'une rencontre, à m'intéresser, en fait, à la vidéo, à la musique, à la photo. Et ça a été difficile pour lui au début. Il avait l'impression de me perdre un peu.
Et est-ce que tu as l'impression que vous êtes retombé amoureux après tout ça?
On a toujours été amoureux, en fait. On ne s'est jamais posé la question si on ne l'était plus. Et en fait, il a compris... que en étant plus heureuse, il était plus heureux aussi. Ouais. Même si j'étais changée, et mon amour, lui, n'avait pas changé.
Et lui, aujourd'hui, il aime la Isabelle de maintenant.
Ouais, je crois.
Et je vais te poser une question qui est un peu profonde, mais est-ce que cette expérience te donne une vision de ce que pourrait être la vie après la mort? Est-ce que tu as l'impression d'avoir ce genre d'information? Toi, est-ce que tu le ressens?
Moi, ce que je ressens, c'est que j'ai pas peur de la mort.
T'en avais peur avant ?
Ouais, j'en avais peur. L'inconnu me faisait peur. Là, ce que j'ai vécu, je sais même pas si c'est vraiment la mort que j'ai vue. Mais je sais maintenant que j'en ai pas peur, ça fait pas mal. J'ai peur de la façon dont je vais mourir, mais pas de la mort après.
Et toi, Isa, est-ce que t'es plutôt quelqu'un de cartésien ? Est-ce que c'est... Pour toi, ça paraissait être une expérience plutôt surnaturel ou pareil, maintenant avec du recul, tu te dis on m'aurait raconté ça, je n'y aurais pas cru.
Ouais, moi je suis toujours quelqu'un de cartésien, mais et c'est vrai que avant, quand j'ai entendu ce genre d'histoire avant, je trouvais toujours des solutions.
Une bonne raison
à ça, côté scientifique, j'avais entendu oui, mais ça c'est parce qu'il y a un lâcher de telle hormone au moment du traumatisme, voilà. Donc en fait, je me disais oui, ça doit être ça. Honnêtement, après l'avoir vécu, si c'était vraiment une hormone qui procurait autant de plaisir, je me dis pourquoi j'ai eu si mal quand j'ai réouvert les yeux.
Parce qu'il y a beaucoup de neurologues qui disent que c'est une façon au cerveau de se protéger de la douleur et d'un choc trop violent, en fait.
C'est ça. Mais en fait, l'hormone ne peut pas disparaître en quelques secondes, juste au moment où on ouvre les yeux.
Oui, comme si on raccrochait un téléphone, quoi.
C'est ça. Et le contraste entre le bien-être absolu et la douleur, l'énorme douleur au réveil, me fait dire que je suis partie quelque part et que j'en suis revenue.
On évoquait tout à l'heure des prénoms que tu as entendus pendant ton blackout, donc pendant ton absence. Il y en a que tu connaissais, il y en a d'autres que tu ne connaissais pas. Est-ce que tu as rencontré des personnes dont tu ne connaissais pas le nom?
Oui.
Est-ce que tu veux nous dire qui?
Ben, entre autres, Hugo.
Hugo, à ma droite. À ta gauche, c'est ça. Que tu ne connaissais pas du tout à l'époque.
Absolument pas.
On absolument t'a pas. Entendu son prénom.
J'ai entendu son prénom, le prénom de son frère, de ses frères, de Léo. Et je n'en connaissais absolument pas.
Donc ça t'a pas plus, voilà, ça t'a pas plus marqué que ça. Tu t'es dit, bon, je ne connais pas ces gens.
Voilà, on m'a cité quelques prénoms que je ne connaissais pas, voilà, mais je les ai gardés dans un coin de ma tête. Et mon fils, à l'époque, faisait du théâtre. Et un jour, il rentre à la maison et il tout excité en me disant « Maman, tu sais, il y a un gars, il est venu et il avait un groupe de rock avec ses copains et là, ils veulent monter un super projet. Et ils sont venus voir s'il y en avait d'entre nous qui étaient intéressés. Ça me plairait trop. » Je lui dis « Écoute, pourquoi pas, on verra ça. » Et donc, quelques jours avant le cours d'après, je fais un rêve particulier où je vois quelqu'un dans mon rêve qui me parle. Et donc, je vais chercher mon fils suite à ça au cours de théâtre. Et je l'attendais devant avec d'autres personnes. Et là, je vois arriver un jeune homme qui sort d'une petite rue. Il faisait super froid, la casquette enfoncée sur les oreilles, le col relevé. Et là, je le vois et je le reconnais. Je l'avais vu.
Tu l'avais vu dans ton rêve.
Et il se dirige droit sur moi. Et donc, il me dit « Bonjour, je m'appelle Hugo, vous êtes la maman de Roméo. » Alors qu'il y avait d'autres personnes. On ne se connaissait pas. Et donc, Hugo était un des prénoms qu'on m'avait cité.
Ça t'a frappé au moment où il t'a dit son prénom?
C'était assez oui, assez choquant. C'était la première fois que je rencontrais une des personnes dont on m'avait parlé.
C'était le premier.
Le premier, donc on a parlé, on est resté un long moment à parler. Il m'a raconté plein de choses, mais comme si on se connaissait depuis longtemps. Et
il n'avait aucune connaissance de ton vécu, du fait que toi, tu avais l'impression d'un peu le connaître, malgré
c'est
tout.
Ça, je lui ai dit très longtemps après, d'ailleurs. Et donc, quelques temps après, lorsqu'ils ont attaqué le tournage du clip, je suis arrivée sur le tournage et on a discuté et il m'a dit « Je vais te montrer les premières scènes que j'ai tournées avec les autres enfants. » Et donc là, je commence à regarder et je lui dis « Stop !» Il me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui dis « Mais c'est à Fontvieille ?» Il me dit « Oui. » Et je lui dis « Mais c'est mon arbre. » Et en fait, il avait filmé les enfants devant la souche qui restait de l'arbre qui était tombé sur ma voiture.
Sans avoir aucune idée. C'est-à-dire qu'il y avait quand même beaucoup d'endroits sur Terre où tourner, et toi, t'as choisi cet endroit-là.
Non, mais en fait, Isabelle, je te stalkais depuis des années, en fait.
C'est ça, l'histoire.
C'est ça, le truc.
Il te fait croire que...
Tout est organisé, c'est moi qui fais tomber la souche.
Est-ce que toi, du coup, quand t'as rencontré Isabelle,
ouais.
Tu savais tout ça?
Non, bah non.
Et t'en avais aucune idée? Enfin, le fait que vous ayez de suite matché, que vous soyez super bien entendu, que vous ayez une relation où vous aviez l'impression de vous connaître depuis quand même longtemps. Ça n'arrive pas tous les jours, ce genre d'amitié.
Non, ouais, c'est vrai. Bah, ça arrive rarement. Mais quand ça arrive, tu te poses pas plus de questions que ça. Tu te dis, bah, c'est cool, on s'entend bien. Ouais, voilà. Et c'est effectivement longtemps après quand même que Isabelle m'a raconté son accident et ce qui s'est arrivé. Je pense qu'elle voulait pas me faire peur. Sinon, j'aurais fui en courant, genre en mode « Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc ?» Donc du coup, tu me l'as raconté quand on est devenu proche, quand on est devenu pote. Et ça m'a... À ce jour, ça m'étonne toujours énormément, mais je trouve ça fou.
Parce que toi, t'es quand même aussi un peu... T'es super curieux, mais t'es quand même très cartésien. Mais... Et quand Isa, elle te l'a raconté, est-ce que tu t'es dit « Non, elle en rajoute ou... »
Ouais, un peu. En fait, sur le coup, au début, je me suis pas dit que tu en rajoutais, mais sur le coup, j'étais pas très à l'aise. C'est vrai, hein, non, mais je te le dis, c'est pas du tout... C'est que c'était un peu beaucoup à digérer comme information. Et du coup, je fuyais un peu. Je sais pas si tu te souviens. Je t'écoutais, tu vois, parce que je suis curieux et je suis poli. Donc j'écoutais, Mais j'étais...
agité.
J'étais pas hyper à l'aise, un peu fuyant. Parce que c'est des histoires qui sont tellement profondes que parfois elles sont dures à concevoir ou à entendre. Mais en fait, c'était super positif. Tout était positif. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu vieilli et que je me suis ouvert à toutes ces choses, maintenant, j'en parle avec beaucoup plus de facilité. Et,
est-ce que t'en as pas marre de stalker les gens pendant leurs rêves?
Oui, voilà, c'est ça, en fait.
Dans le cadre de ton travail, t'es quand même quelqu'un qui est confronté à la mort au quotidien. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, t'as rencontré des gens qui ont vécu la même chose ou qui... avec qui peut-être tu as pu partager ton expérience?
Qui ont vécu la même chose? Non.
Tu n'as jamais parlé de quelqu'un qui a vécu la même chose?
Non, je n'ai jamais rencontré personne qui ait vécu la même chose. Par contre, c'est vrai que lorsque j'accompagne des gens âgés vers la fin, je ne le perçois plus du tout de la même manière.
Une autre forme d'empathie? C'est qui ça. Te permet de les accompagner autrement,
qui me permet de les accompagner autrement, et je n'ai plus cette énorme tristesse que je pouvais avoir avant.
Tu n'as plus le même rapport à la mort, en fait.
Voilà, parce que je me dis que si ce que j'ai vécu, c'était vraiment ça, ils sont bien où ils vont. Quand ce sont des personnes âgées, bien sûr. Hein.
Oui.
C'est, voilà.
Et tu arrives à essayer de les rassurer. Enfin, j'imagine que du coup, tu as des mots que tu n'aurais pas pu avoir avant, quoi.
Je reste très professionnelle. Par contre, c'est beaucoup avec les familles que j'ai un comportement différent. Mes patients savent que j'ai eu un accident, mais je ne leur ai jamais raconté ce qui s'était passé.
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui, comme toi, n'arriverait pas à mettre des mots? Alors, peu importe... les faits similaires que vous auriez pu ressentir. Qu'est-ce que tu t'aurais envie de dire pour donner un petit peu de... peut-être une pulsion pour arriver à en parler un peu mieux, un petit tremplin pour essayer de mettre des mots?
Je pense que déjà, il faut pas ignorer ce qui s'est passé. Il faut pas minimiser. Et si on a peur d'en parler autour de soi, il faut aller voir quelqu'un pour en parler. Une psychologue, une psychanalyste. Parce qu'il faut en parler.
Toi, tu penses que tu en as parlé trop tard? Ou est-ce que tu as l'impression que voilà, tu as fait ton chemin comme tu devais le faire?
Je pense que j'ai fait mon chemin. C'était le bon moment quand j'ai décidé d'y aller. Je ne me suis pas forcée à y aller. Et ça m'a permis de faire aussi des expériences. Ça m'a permis de revivre un peu comme toute une vie pendant cette période-là. Je suis passée du bébé, comme je te disais tout à l'heure, où j'avais besoin d'aide, même parfois pour m'habiller. Après, à la phase enfant, où je savais faire des choses, mais je ne pouvais même pas me déplacer toute seule en voiture, et j'étais toujours tributaire de quelqu'un. À la phase adolescente, où j'avais des comportements à risque, où je faisais n'importe quoi. Et ça m'a permis de grandir, en fait. Et après, d'aller voir une psychanalyste, ça m'a permis aussi de comprendre tout ça. Et c'est important de mettre des mots dessus. C'est important de pas non plus se précipiter chez quelqu'un pour en parler si on n'en ressent pas forcément le besoin au début, parce qu'il faut aussi le temps de digérer. Il faut le temps de l'intégrer, de se remettre physiquement, parce que souvent quand on vit des choses comme ça, on a des problèmes physiques associés. Il faut faire les examens qu'il faut. Et après, se pencher tranquillement sur le psychique.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois le positif de toute cette expérience?
Je ne vois que du positif. Pendant longtemps, je suis passée devant cette souche qui était toujours là. Et à chaque fois que je passais, je l'insultais et je lui faisais des doigts d'honneur. Jusqu'au moment où, en fait, je suis passée devant et il y avait des bûcherons qui étaient en train de nettoyer l'endroit. Et là, j'ai été prise d'une angoisse folle en me disant « Mon Dieu, ils vont m'enlever mon arbre ». Et je me suis arrêtée au bord de la route et en pleurant, j'ai été voir la personne qui s'occupait de l'arbre et je lui ai expliqué. Et il comprenait pas bien, le monsieur, ce que je lui disais. Et je lui ai dit que cet arbre était tombé sur ma voiture et que je voulais un bout de l'arbre. Il m'a coupé un bout de l'arbre et j'ai un bout de l'arbre à la maison.
Tu l'as gardé?
Je l'ai gardé.
Et comment tu te sens aujourd'hui ?
Je suis heureuse. Je me sens bien. Et ce qui me plaît, c'est que mes enfants et mon mari me le disent aussi, ça se voit.
Et quel est le sentiment qui ressort du moment où on se sent en vie, où on a l'impression d'avoir voilà, retrouvé sa famille, sa vie
Plusieurs mois, voire plusieurs années, à chaque fois qu'il se passait quelque chose de nouveau, je me disais oh là là, mais encore un peu, tu loupais ça. Tu as bien fait de rester.
Dans des moments importants,
Salomé qui est sur scène aux Rencontres nationales de danse et qui a une médaille d'argent avec ses copines. Roméo qui est au théâtre et qui joue du Molière. C'est des petites choses dont on ne se rend pas forcément compte tous les jours quand on est parent. Et en fait, c'est tellement énorme quand on se rend compte de la chance d'être là. Et chaque petit moment est unique. Et je crois qu'on n'en a pas assez conscience, en fait. On en prend conscience quand on se dit qu'on a la chance d'avoir une deuxième vie.
Eh bien, merci Isabelle. C'était une belle leçon de vie. Et moi, je trouve que c'est chouette de pouvoir en parler.
À bientôt.
Et pour finir, est-ce que tu sais qui est la personne qui a appelé les secours le jour de l'accident ?
Non, je ne sais pas. Après coup, j'avais demandé aux pompiers, aux gendarmes, mais personne ne savait. J'avais demandé un petit peu autour de moi, comme c'est un petit village. Et en fait, non, j'ai jamais eu de réponse. Il y a une fois où quelqu'un m'a dit « Ah, mais il me semble que quelqu'un que je connais m'en a parlé, il connaît quelqu'un sur Arles. » Mais c'est resté là-dessus. En fait, j'en ai jamais su plus.
Alors, si vous écoutez ce podcast, que vous avez déjà entendu parler de cette histoire, peut-être, ou que vous vous reconnaissez dans cette histoire, peut-être vous aurez la réponse pour Isabelle, à savoir qui, ce jour-là, a appelé les secours.
Parce que c'est une personne que j'aimerais remercier.
Merci à Isa d'avoir partagé son histoire au coin du feu. C'était un épisode incroyablement intense pour toutes les deux. J'espère que comme moi, cette écoute vous donnera envie de mieux comprendre et de mieux entourer vos proches qui peut-être ont vécu une situation similaire. Je vous recommande, si vous voulez prolonger l'expérience, de regarder la série documentaire actuellement sur Netflix, Survivre à la mort. Non, ceci n'est pas une pub. Pour conclure cet épisode, j'avais envie de vous partager ces quelques lignes du scientifique Neil deGrasse Tyson, que j'aime beaucoup si vous me suivez, qui illustre parfaitement ce que je ressens.
So that we're all connected to each other, biologically, to the earth, chemically, and to the rest of the universe, atomically. That's kind of cool. That makes me smile. And I actually feel quite large at the end of that. It's not that we are better than the universe, we're part of the universe. We're in the universe and the universe is in us.
Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en me laissant un petit mot doux, en vous abonnant à mon Instagram, Raccoon Club Podcast, et surtout en partageant cet épisode s'il vous a plu. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. À très vite pour de nouvelles histoires incroyables.